la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi.
Par oui dire.
Le Moudia, c'est un rêve pour une guide. C'est juste un rêve, parce que enfin, tout converge vers une imprégnation formidable des mouvements artistiques. Donc chaque salle va permettre aux visiteurs de s'imprégner de mille manières, parce que ce musée est à la fois hyper artistique, mais il est aussi hyper ludique, il est aussi hyper technologique, et tout ramène à l'œuvre, en fait, et à affûter son regard sur l'œuvre et sur un mouvement. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau pour le visiteur et un grand rêve pour une guide. On est vraiment dans une forme d'imprégnation par les œuvres, les quiz, les jeux, les tests, les historiettes, mille manières dans une seule salle. Déjà, rien qu'une salle, il y a mille manières différentes d'appréhender un même mouvement.
Province du Luxembourg, Redu, village du livre, Moudia, l'art autrement. Du mercredi au dimanche, de 10 à 18 heures.
Voici un tableau de Jérôme Bosch, qui est en fait un écran, mais qui se présente sous la forme originale du Jérôme Bosch. Par contre, dès que je pose le doigt n'importe où sur l'écran, sur cette tentation de Saint-Antoine effrayante, remplie de monstres incroyables, dès que je pose le doigt quelque part, hop, quelque chose se passe. La salle des enfants, la salle où on n'arrivera pas à les faire décoller, qui se trouve à mi-parcours, qui permet aux parents de s'asseoir sur un fauteuil et de se reposer un petit peu, tandis que les enfants touchent à tout. Enfin, on peut toucher. Voilà un musée où on peut toucher. Et c'est si rare. Souvent, c'est ne touche pas, ne cours pas, ne t'agite pas. Ici, faites les trois.
Avec Marie-Elisabeth Van Reck-Vorsel, Éric Noulet, Anne Laffu, Geneviève Bijal,
et c'est pas pour rien que le parcours commence sur des reproductions de fresques de la chapelle Brancacci qui nous montre Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, au fond, ils ont été chassés du paradis. Et bien, l'histoire de l'art qu'on parcourt sur 7 siècles, 20 salles, 300 œuvres, des jeux, etc., finalement, qu'est-ce que c'est d'autre chez les artistes qu'une recherche de paradis perdu, une tentative de retrouver ce qu'on sent avoir perdu et qu'on espère retrouver à travers la création. Mais vraiment, on sent bien cette aspiration à travers les 7 siècles d'art et on est emmené par la main dans ce musée vers ça.
L'art autrement a redu. Par Thierry Jonico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et à une fois j'entends. Je dis qu'est-ce que c'est que ça?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Donc.
Ces lieux nous parlent.
Pas de question tabou, quoi. C'est vraiment l'art pour les nuls. Donc si je pose la question, pourquoi est-ce qu'elle met du vert sur sa figure, celle-là, c'est moche, pourquoi il y a ça? Eh bien, on répond. Et comment est-ce qu'on répond? Par la création aussi d'un audio-guide qui permet un dialogue entre une petite fille, la petite Mademoiselle Moudia, qui est vraiment la mascotte du musée, que vous allez retrouver dans le grand film d'animation. Eh bien, la petite Moudia, elle pose toutes les questions qui fâchent, les questions qu'on n'ose pas toujours poser. Ça c'est un scrabouchat, moi je peux faire pareil. Enfin, pourquoi est-ce que c'est de l'art, pourquoi est-ce que c'est dans des musées? Et la guide répond patiemment avec des mots simples, directs. On n'a pas peur de les poser, ces questions. Quoi.
Les scénographes ont prévu de faire de la musique d'ambiance dans toutes les salles, qu'il y a de la musique pour le film, il y a de la musique un peu partout, il y a de la musique qui accompagne certaines attractions. Et je crois que la musique est aussi une forme d'art. Je me suis arrêté avec les 7 formes d'art que vous connaissez, la sculpture, la peinture, le dessin, la vidéo, les bandes dessinées, la photographie, etc. Et j'ai voulu tout mélanger et exposer cela, parce que je trouve qu'un dessin d'Hergé ou un dessin de Franquin ou de Milo Manara, c'est aussi beau qu'une peinture de Guy Doreni que vous avez vue dans la salle où nous avons parlé.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible.
Vous dire que j'ai voulu terminer mon parcours professionnel, je ne dis pas de vie, mais professionnel, par un choix de cœur et non un choix commercial. C'est comme ça que nous avons créé une ASBL.
Éric Noulet.
Moi, je peux vous dire que je suis passionné par l'innovation, c'est-à-dire par ce qui n'a pas été créé avant, par ce qui est nouveau. D'accord ? Ne jamais faire comme les autres, c'était ma devise. Et je suis passionné aussi par l'art.
Et vous-même, vous êtes maire de Redu ?
Liban, mais Redu est un des villages qui composent la commune de Liban. Oui, oui.
L'objectif que ma femme, qui est professeure, qui est là au fond de la salle parce qu'elle ne veut pas parler, elle ne veut pas faire d'interview, mais sans elle, je n'y serais jamais parvenu.
C'est pas moi la star aujourd'hui, mais c'est moi l'hôte qui accueille les stars aujourd'hui. Donc c'est vraiment que du bonheur aujourd'hui, même si je ne suis pas pour grand-chose dans la réalisation, dans ce qui nous accueille, dans ce qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai le privilège d'être bourgmestre d'une magnifique commune, donc la commune de Liban. Et au sein de la commune de Liban, eh bien, il y a le village de Redu. Alors Redu, c'est un village, le village du livre évidemment, c'est un village touristique qui fêtera ses 35 ans l'année prochaine. Et donc voilà, Redu se diversifie énormément. Et mais l'accueil évidemment, l'arrivée de cette nouvelle attraction culturelle et touristique, c'est évidemment... Un cadeau tombé du ciel, c'est magnifique évidemment de pouvoir accueillir ça au sein d'une commune. Et nous en réjouissons évidemment tous de pouvoir amener de la culture au sein d'une petite commune. Donc la culture au sein de la ruralité, c'est évidemment quelque chose d'essentiel.
Dans la continuité d'un parcours chronologique, il fallait qu'il se place judicieusement à l'ouverture d'un grand changement en fait. Le fauvisme précède de peu un immense changement dans l'histoire de l'art. On n'est pas loin avant Picasso.
Anne Laffut. Oui, j'aime beaucoup lire, j'aime lire, oui. Et j'aime l'art aussi, donc je trouve que c'est vraiment un cadeau tombé du ciel ici. Et voilà, mais Redu évolue, donc il y a une quinzaine de librairies pour le moment.
On n'est pas longtemps avant la bascule de Picasso, la déconstruction du corps, etc. Ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est que de nouveau, comme partout dans le musée, on fait converger une imprégnation artistique. C'est-à-dire que les couleurs fauves, elles parlent au corps, elles impliquent le corps. Il y a quelque chose dans le fauvisme qui n'est pas très loin du baroque, par exemple, qui nous rappelle le baroque, donc une implication entière du corps. Et dans cette salle, par exemple, on propose des activités qui impliquent le corps entier. On a par exemple ce jeu ici, qui demande aux visiteurs de se placer dans un cercle dessiné au sol et de prendre une pose comme le modèle le propose sur le tableau. Et quand le visiteur a pris la pose, le modèle lui-même change de pose en nous montrant au moment du changement de la pose une déconstruction du corps qu'un artiste doit pouvoir observer quand il dessine un corps humain. Et donc cette déconstruction de corps, c'est celle qui va permettre au regard cubiste de Picasso de déconstruire également en forme géométrique. Et donc dans le musée, on choisit d'impliquer le corps fortement, soit en faisant bouger le corps tout entier en prenant la pose, soit en suggérant d'aller voir à travers un petit trou dans le mur une œuvre devant laquelle sinon on serait passé sans même la remarquer. Le simple fait qu'on doive se pencher, observer par un trou du mur, c'est parfois des trucs très simples, des procédés très simples qui permettent au visiteur d'affûter son regard, de regarder mieux en fait, d'aller chercher l'œuvre plutôt que d'attendre qu'elle vienne à elle. Et on cherche l'œuvre en étant stimulé par des propositions que Moudia fait ici dans chaque salle.
C'est de seconde main en fait, c'est ça la spécificité. Donc c'est pas des livres neufs, c'est vraiment l'endroit où on n'achète que du livre de seconde main et où on retrouve parfois des gens qui cherchent vraiment des curiosités. Il y a quelques librairies qui sont spécialisées dans des domaines particuliers et puis il y a une librairie pour les bandes dessinées et puis il y a des librairies qui sont un petit peu pour tout public avec toutes sortes de livres, oui.
Marie-Elisabeth Van Reckevorst.
Alors on a par exemple dans cette même salle fauve à la fois une implication du corps, mais on a aussi un jeu, le fameux Epoca Mundi, où en scannant son QR code, on peut accéder à 1, 2, 3, 4 joueurs à un jeu. Et alors on est stimulé, mis au défi de trouver l'époque d'un tableau et on gagne ou on perd des points, etc. Avec ce jeu-là, un autre petit test qui se trouve dans cette même pièce, c'est 3 têtes de Rick Wouters, de Nell, sa femme adorée, qui rit. Donc déjà c'est très joyeux, on est devant 3 têtes qui éclatent de rire, ça fait plaisir. Mais c'est 3 têtes, il y a Nell qui rit en plâtre, Nell qui rit en bronze, Nell qui rit en terre. Et on apprend alors à décoder ce que sont les matières utilisées pour la sculpture. Faire la sculpture, c'est pas juste la sculpture en général, ce sont des matières qu'on travaille différemment. Et donc, rien que dans cette pièce déjà, voilà 3 manières différentes d'appréhender une époque et de comprendre un mouvement.
Alors, 2 petites définitions très simples. Vous avez dit le baroque.
Le baroque, c'est le corps en mouvement. Le baroque, c'est la force, la puissance d'un corps en mouvement. On vient de la Renaissance où on a découvert ce que c'est que le corps. Et puis petit à petit, on implique le corps, non pas dans les positions statiques et sérieuses et sages, mais on implique le corps dans sa totalité, du pied jusqu'au bout du doigt. Tout va bouger, tout va être mis en mouvement. Les tableaux baroques, ils se jettent à votre figure, tandis que les tableaux qui ont précédé, il faut aller s'approcher pour les regarder. Un tableau baroque, c'est souvent une grande claque à la figure. Pensez à Rubens, pensez à Jordaens, pensez aux grandes descentes de croix. On sent tout. Le baroque s'adresse au sens, en fait. C'est d'ailleurs une chose qui est importante dans le musée ici aussi, c'est qu'on s'adresse au sens. Bien sûr, il y a le gourmet qui, à la fin de la visite, reçoit les délices du Moudia Café, mais surtout, dans la visite elle-même, on bouge le corps tout entier, comme on l'a déjà dit, mais on reçoit par exemple en audio une sonorité qui traverse toutes les salles du musée, et dans chaque salle, des musiques spécifiques à l'époque vont ressortir légèrement en quelques notes et vont permettre de s'imprégner encore plus d'une époque.
Les sensations que l'on éprouve en visitant le musée, aussi, c'est la découverte comme on découvre un livre, donc c'est vraiment l'apprentissage de l'art. La lecture, c'est de l'art, donc je pense que le Moudia a vraiment sa place ici dans le village du livre, moi j'en suis convaincue. Une attractivité, une attraction en plus, une attraction touristique et culturelle et qui a vraiment sa place ici dans le village du livre de Redu.
Nous avons voulu faire apprécier l'art par tous, par trois moyens et par trois voies. Nous sommes adressés à tous ceux qui étaient non connaisseurs, les enfants, les femmes, ceux qui ne venaient jamais dans des musées et qui, pour l'art, c'est quelque chose de peu accessible et de réservé à une certaine élite. Or, nous avons combiné, nous avons fait un nouveau mélange d'œuvres originales, sublimes, parce que ici vous avez un Suert que tous les musées du monde nous envient. Vous avez un Guy Doreni que le musée Getty aimerait posséder. Derrière moi, vous avez un Valerio Castello qui était prêté à la ville de Gênes. Vous avez à côté un tableau que ma femme a trouvé chez un prêteur qui se trouvait quelque part en Italie et qui est de Art de Gelder, d'un élève de Rembrandt. Œuvre avec localisation inconnue, et de nombreuses œuvres sont là, sont des œuvres extraordinaires, et nous avons voulu combiner ça avec des attractions inédites.
Province du Luxembourg, Redu, village du livre, Moudia, l'art autrement. Du mercredi au dimanche de 10 à 18 heures. Avec Marie-Elisabeth Van Reck-Worsel, Eric Noulet.
Et aussi, nous avons voulu faire une présentation simple, c'est-à-dire que très souvent, vous rentrez dans une exposition, vous lisez une phrase, et puis vous la lisez trois fois, et vous dites « c'est trop compliqué, j'ai pas compris ». Donc, on a voulu rendre l'attraction touristique Moudia accessible à tous. C'est pour ça qu'il y a des petites historiettes qui sont amusantes, c'est pour ça que les cartels explicatifs sont simples, etc., etc.
Mais en tout cas, Rick Wouters, c'est bien sûr un fauve, mais c'est aussi un grand amoureux, en fait.
Voilà. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Marie-Elisabeth, qui est administrateur et qui a réalisé énormément de choses pour Moudia, notamment le site web, etc., et qui fera les visites guidées. Par après.
Ah, fauvisme vient des fauves. C'est-à-dire que quand, dans une exposition, on a tous des tableaux très académiques et des œuvres très académiques, et qu'au milieu de tout ça, on a des couleurs qui pètent violemment, eh ben, les critiques d'art, se croyant pinçants, vont appeler ça des fauves, et vont reconnaître la sculpture académique comme étant un Donatello parmi les fauves, et les artistes vont s'en régaler, et très rapidement, le nom va être adopté pour montrer justement la dissonance avec ce qui a précédé, la différence et la joie éclatante des couleurs présentes dans les tableaux fauves.
Éric Noulet. Donner aux gens l'occasion de faire quelque chose qu'ils ne font pas. Si vous interrogez les gens, monsieur tout le monde, pour eux, l'art n'est pas accessible.
Et dans son œuvre, on a à la fois le côté fauve, mais aussi l'amour débordant qu'il a pour son épouse et qui lui fait sublimer le quotidien, en fait. Et c'est ça qu'on aime beaucoup avec Rick Wouters chez nous. Ce quotidien, cette banalité qui devient aimante et joyeuse, en fait. Ça, c'est le cadeau que Rick Wouters fait. On a eu une très belle rétrospective de Rick Wouters au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et bien, typiquement, un jeune qui vient ici, qui n'y connaît rien à l'art, se dit « Tiens, dans cette pièce du fauvisme, je me sens bien ». j'aime bien cet artiste. Ah ben justement, il y a une rétrospective qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts. Ben, je vais aller la voir, je vais aller plus avant dans quelque chose qui m'a plu dans ce grand fleuve de l'art que j'ai parcouru.
Et moi, le public que j'ai toujours rencontré au cours de 40 ans de visites de musées, un peu partout dans le monde, j'ai pu me remarquer que peu de gens visitent les musées. Peu de gens sont excités par cela. Et généralement, ils ne viennent pas avec leurs enfants. Ils essaient de les caser avant, s'il y a une exposition. Et l'enfant, il faut le tirer de force pour qu'il rentre dans un musée, comme j'ai fait l'expérience avec mes petits-enfants. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans un milieu qui n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Voilà.
Et vous-même, quand vous étiez enfant, vous n'alliez pas dans les musées ?
Si. J'ai eu la chance d'avoir des parents collectionneurs qui aiment amoureux de l'art. Et moi, j'ai toujours aimé l'ambiance des musées. Quand j'ai parlé avec le frère de Fabius, qui était un grand marchand d'œuvres d'art, il disait, quand vous allez quelque part en France, vous serez toujours heureux en rentrant dans un musée. C'est un refuge merveilleux.
Quand vous dites Fabius, il s'agit de l'homme politique?
Non, du frère de l'homme politique. Ou un cousin de Laurent Fabius. Des œuvres que j'ai, des œuvres que j'ai vues chez des prêteurs, des œuvres que j'essaye encore d'obtenir. Par exemple, j'ai vu une collection de maîtres hongrois qui est extraordinaire, et que j'aimerais bien un jour faire sortir d'une maison. En plus, c'est même pas exposé, c'est dans des caves. Je crois que l'art, quand on le possède, il n'est pas pour soi, il est pour tout le monde. Et il faut le partager. Et c'est ce que nous avons toujours fait avec notre petite collection. Nos tableaux ont toujours été prêtés aux grands musées et aux petits musées.
Ancien presbytère de Redu, en face de l'église, mais qui avait déjà été transformé une première fois de façon assez importante par...
Geneviève Mijan.
Un monsieur qui avait établi ici une savonnerie, un magasin de cadeaux, etc. Donc ils avaient fait déjà des extensions, par exemple ce qui est le salon de thé actuellement, et une tranche avait été rajoutée à gauche pour tous leurs ateliers et leurs stocks de savon. Et le bâtiment a l'air peut-être petit de l'extérieur, mais on développe quand même ici 1000 m² dans un bâtiment qui a l'air d'être une grosse maison prestigieuse dans le village.
Je reviens à la collection que vous avez, au collectionneur que vous êtes. Qu'aimiez-vous ? Que cherchiez-vous ? Vos lignes de force, vos lignes rouges, quelles étaient-elles ou quelles sont-elles ?
En fait, avoir autour de soi des belles choses, c'est se rendre heureux. C'est avoir un coin de poésie dans sa maison. C'est aussi donner à ses enfants ou ses petits-enfants et à ses amis l'occasion d'approcher la beauté. C'est pour ça que ma femme, dans ses remerciements, elle dit, dans notre action philanthropique, nous voulons donner aux gens la possibilité d'approcher la beauté. Et c'est ça que nous avons voulu faire.
Mais vous ne citez aucun nom d'artiste.
Nous sommes intéressés par l'évolution de l'histoire de l'art depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine que j'aime, je dois dire, ou que je connais moins bien. Mais chaque période, chaque mouvement a produit des artistes géniaux, des œuvres sensationnelles. Et quand un musée, parce qu'il en a plus ou parce qu'il ne veut présenter qu'une période, se limite à cette période, je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et je crois que l'art ancien, que les gens aiment moins, le grand public aime moins, c'est parce qu'il a voulu obstinément rester hermétique aux gens. Et que si on démystifie l'art, chaque mouvement d'art, et on présente quelque chose qui est représentatif de ce mouvement, et qu'on explique pourquoi, et qu'on explique en amusant, en divertissant, en faisant sourire et en faisant rire, là, on fait quelque chose de nouveau. On sort des modèles classiques des grands musées. Voilà.
vous ne parlez pas de l'art en dehors de l'Europe, en dehors de l'histoire de l'art.
Oui et non. Ce n'est pas le Louvre. Donc, l'architecture, l'art égyptien, etc., non, on ne l'aborde pas, ce n'est pas possible. Par contre, j'ai voulu montrer que certains mouvements d'art sont internationaux. Exemple, symbolisme. Vous aurez une œuvre symboliste italienne, polonaise, américaine, belge, française, etc., etc. J'ai voulu montrer qu'un grand mouvement est international. Si vous prenez le caravagisme, le Caravage, l'un des peintres les plus chers du monde, avec Léonard de Vinci, bien entendu, mais le Caravage a essaimé son mouvement, qui est le caravagisme, aussi bien en Hollande qu'en France, qu'au Danemark, etc. Donc, j'ai voulu montrer aussi que ces mouvements sont très importants.
Mais si je prends le cas du symbolisme...
Oui.
Je crois savoir que le symbolisme indique le mystère derrière les images, un monde invisible qui se cache derrière les images.
Tout à fait. Et c'est ce que vous verrez encore mieux si vous allez à la salle symboliste, je crois que c'est la salle 06. Là, vous verrez tous les mystères qu'il y a derrière tous ces dessinateurs, ces peintres. Mais au milieu d'eux, vous verrez une surprise, un tableau animé de Dylan Redon, qui est un des précurseurs du symbolisme, pour que justement les gens ne s'ennuient pas, ou plutôt pour les amuser. Si on veut montrer que des œuvres d'art, je sais que je me coupe de la grande majorité des gens.
C'est tout près, c'est tout ça. Ah non, c'est en dessous, il faut descendre un étage.
Un beau bâtiment, simple, c'est pas une ferme, hein, c'était le bâtiment de prestige. Alors, la démarche de mon bureau, c'était vraiment de conserver cet aspect architectural, de respecter le village. Bon, on a amélioré évidemment l'entrée, l'accueil, je dirais avec les sculptures de Dodden, là, qui représente ces cinq figures qui vous attendent, qui nous représentent tous, les passagers dans ce musée.
Ce qu'un grand collectionneur m'a toujours dit, c'est incroyable. Les gens qui viennent chez moi, si ce n'est pour me flatter et me dire quel beau tableau, sinon personne ne s'intéresse vraiment à mes œuvres d'art, sauf un ou deux. Et je parle pas de pourcent, mais de pour mille. Donc, en voulant faire de l'innovation, eh bien, on présente l'art d'une autre manière, l'art autrement.
L'art autrement et qui se joue derrière un mot qui est cité souvent lors de la conférence de presse, qui est le mot qu'on utilise dans les foires, dans les kermesses, ou dans le tourisme, qui est le mot attraction.
Oui. Alors je vais vous poser à vous la question. Voulez-vous un musée uniquement consacré aux œuvres d'art avec des textes hermétiques et vous êtes seul dans le musée? Ou vous voulez avoir un musée pour donner aux gens la notion de ce qui est beau? Et dans le premier cas, ce sont les musées classiques. Et dans le deuxième cas, on approche une action philanthropique.
Geneviève Mijal. M-I-G-E-A-L, c'est pas facile à dire. Quel était le programme? Ah, quand monsieur Noulet est venu me trouver, il voulait exposer ses œuvres d'art dans un bâtiment existant.
Un mouvement fascinant, un mouvement qui se méfie de la modernité. Vous savez, inexorablement, depuis la Renaissance, tout avance vers la modernité, vers le train, vers les mines, vers aujourd'hui, tout simplement. Et puis des artistes pour qui c'est trop. Pour qui c'est trop et qui se réfugient dans un monde rêvé. N'oubliez pas aussi qu'à la fin du 19e, Freud débarque avec ses notions d'inconscient. On découvre qu'on a un inconscient, que c'est ce qui est la face cachée d'un iceberg, c'est une partie importante de nous. Eh bien, des artistes vont s'en emparer et chercher à se détourner peut-être de la vie trépidante de la fin du 19e. Souvent, ça pue, c'est désagréable, il y a beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de pauvres, et ça dérange un peu les bourgeois, donc on se réfugie chez soi. Et puis, des artistes vont se réfugier dans leur monde intérieur, découvrir que ce monde intérieur est vaste. Ça amènera petit à petit au surréalisme. Et donc, un monde de rêve, de mystère, qui va être fortement peint par les artistes, parfois de manière très agréable, douce et mystérieuse.
Il y a des choses à lui que je sais lesquelles, qui étaient chez lui, hein, donc je les ai vues chez lui avant. Et puis alors, il y a des prêteurs que je ne connais pas, parce que je pense que c'est des gens qui demandent un peu de discrétion.
Si vous allez dans des musées comme à Londres, la Wallace Collection, où vous avez les murs tapissés d'œuvres d'art, les superposées les unes aux autres et accolées les unes aux autres, quand vous voyez les gens, vous observez, vous parlez, vous voyez qu'ils ne savent pas quoi regarder. Ils ne s'amusent pas, ils y vont parce que ce sont des spécialistes en art, mais le grand public avec les enfants n'ira pas spécialement. Ce qu'il faut, c'est remplacer la petite voiture qu'on fait rouler sur le sol, si le gardien vous permet, ne vous engueule pas, comme moi je faisais avec mes enfants, par une scénographie adaptée pour les enfants, les familles, les gens, monsieur tout le monde.
Il avait sa collection, il avait ses tableaux et cette chronologie, et il fallait les mettre en œuvre. Donc on a dû discuter de la façon, comme il expliquait, hein, comment les accrocher, les protéger, puisque ce n'est pas quelque chose où il y aura un gardien par salle. Et donc, toutes ces discussions-là, voilà les cloches. Tiens.
Oui, car nous sommes tout près de l'église, à Redu,
oui.
Et il est 13h.
Un Valérius de Sadler va nous montrer la campagne en Belgique de manière ravissante, mais en même temps un peu mystérieuse, avec ses arbres dénudés aux branches fantomatiques. Et un Spiliart, lui, de manière un peu plus compliquée, un peu dérangée, va se promener à Ostende la nuit et va découvrir des paysages un peu fantomatiques éclairés par la lune, qui vont répondre à son état intérieur un peu angoissé, un peu compliqué, disons. Et alors il va traduire ça dans ces paysages qui sont tout près de l'abstraction déjà. Et par exemple dans Spiliart, et en particulier dans l'œuvre qui est ici, on sent bien qu'on n'est pas très loin, non seulement de l'abstraction, mais pas très loin non plus de la bande dessinée. On sent que l'influence, par exemple, du japonisme, du regard des estampes japonaises qui a été découvert par les artistes à la fin du 19e, va énormément influencer les artistes et permettre petit à petit la naissance de la BD. La BD étant aussi un art qui est abordé dans le musée. Donc on est très complet, on va vraiment de Bruegel à la BD, quoi. Et tout se tient, et on est toujours les enfants de quelque chose, et on vient toujours de quelque part.
Un village connu par le livre,
oui.
Où un homme de radio était important d'ailleurs, oui. Pour lancer la chose, Gérard Ballet.
30 ans.
Oui, 35 ans. Oui.
Et Noël Ancelot pour les livres.
Et donc, on vous appelle pour transformer une maison.
Oui, une grosse maison.
En musée.
En musée.
En petit musée.
En petit musée, oui. Une grosse maison en petit musée.
L'avenir de mon institution sera de servir de modèle à tous les autres musées, puisque nous avons déjà des demandes qu'on ne va pas remplir pour faire des mudias autre part, et tous les conservateurs des grands musées vont venir voir pour voir comment on peut intéresser les gens à l'art. Et je crois que rien que d'avoir apporté notre petite pierre à cet édifice qui est immense, ça nous rend heureux.
À les traverser rapidement, les pièces, elles sont nombreuses.
Oui.
Elles sont à l'écran.
Oui, je trouve que c'est le mot.
C'était ça le programme.
Oui, c'est ça le programme, oui. Et c'est vrai que, une fois que tout s'est mis en place, je trouve qu'on a parcelle, l'atmosphère de la maison reste, et que je trouve que c'est une façon de s'approprier l'œuvre qui est très spéciale. Parce qu'on peut être seul avec des tableaux. Moi, je préfère l'art contemporain, mais je trouve qu'ici, je découvre des tableaux du XVIe ou du XVIIe siècle, comme je les ai rarement regardés dans des musées où il y en a des kilomètres dans les grandes salles qu'on parcourt un peu vite. Donc ici, j'ai du plaisir à regarder chaque tableau.
Dada et le surréalisme ensuite, etc. Tout ça plonge ses racines dans un 19e siècle où les crises nerveuses des femmes laissaient tout le monde pantois. On se demandait ce qui se passait. Freud s'y intéresse. Freud découvre qu'il y a vraiment une casserole à pression, qu'il y a un inconscient, et on cherche un peu là-dedans.
Mais Dada est une révolte contre la tragédie de la guerre de 14.
Ah oui, clairement, Dada, c'est comment se fait-il que tous ces bons codes moraux, sages, les belles valeurs ont pu amener à une telle tragédie absurde. Quand on relit la guerre 14 à l'aune des historiens d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un jeu de domino qui n'a aucun sens. Et donc, on se dit, quelque chose qui n'a pas de sens comme ça, et qui est l'aboutissement d'un siècle de valeurs soi-disant très assises et sages, ça va pas, on change. Et donc vous avez probablement repéré dans une des salles l'extrait du film Marguerite, dans lequel on voit un moment Dada extraordinaire. Et bien voilà de nouveau une manière qu'a le Moudia de faire converger les arts pour mieux comprendre un mouvement. Et donc en observant ce petit extrait du film Marguerite, on découvre ce qu'a pu être le dadaïsme, cette espèce d'énervement de la jeunesse. Comment est-ce que ça a été possible, cette guerre-là? On va tout faire exploser et on fait tout péter, voilà. Marie-Elisabeth Van Rijke-Worsel. Historienne de l'art, je suis dans le comité Moudia, administrateur de ce musée et responsable de l'aspect didactique.
Notre terrasse, elle domine un paysage qui est tout se reduit autour. Donc, on voulait y associer la nature, retrouver aussi des couleurs de cette pierre, parce qu'on est dans un environnement minéral en même temps, avec quand on regarde là ce clocher, ces ardoises. Donc on est parti sur cet acier corten qui reprend la rouille des pierres existantes du grès de la région. Et alors la verdure qui vient d'être plantée, donc qui doit encore un peu se développer, et qui pouvait faire ce contrepoint de couleur et donner envie aux gens de s'y arrêter et de boire un café ici, en profitant de cette vue et de cette tranquillité, je trouve.
Nous avons voulu aussi faire connaître une face cachée de l'art que peu de gens connaissent et qui, à travers les tests, dévoile un côté qui est très intéressant et qui évite de faire des bêtises quand on achète quelque chose. Une datation, une signature, savoir si l'œuvre se trouve répertoriée ou non, les faux experts, les vrais experts, et ainsi de suite. Nous avons voulu aborder l'art d'une toute autre manière.
Et pourquoi Félicien Rops autour de Fernand Knopf?
Ce sont des artistes belges, bien sûr, mais tous, à leur manière, sont évocateurs du mystère. Rops de manière plus iconoclaste et Knopf de manière plus étrange et fascinante. La fascination générale de Knopf pour sa sœur Marguerite, omniprésente dans ses œuvres, même quand il peint une autre femme, on retrouve toujours un peu de Marguerite dans les femmes de Knopf, nous laisse une sensation un tout petit peu étrange, une saveur en bouche, parfois un tout petit peu désagréable. On sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche un tout petit peu. Dans le symbolisme, on est comme ça tout le temps un petit peu en porte-à-faux. On sent bien qu'on aborde, on touche à des zones d'ombre de la personne assez souvent. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a juxtaposé au symbolisme ici une zone plus art nouveau, avec des vitraux, etc. L'art nouveau, c'est aussi une manière à la fois d'embrasser la modernité dans les matériaux, mais aussi de la fuir, puisque les intérieurs art nouveau tels que Victor Horta va les créer, et on a ici un très bel exemple d'un vitrail de Privas-Liévemont, nous montre bien que quand on crée un intérieur art nouveau, on tente de créer un intérieur sensuel. Et de nouveau, là, on peut faire appel au baroque, il y a vraiment un rappel baroque, un intérieur sensuel où les lumières qui viennent de l'extérieur, qui sont grises et froides en Belgique, vont traverser des verres chenillés venant de Tiffany, etc., des verres chenillés colorés, et diffuser dans les maisons une lumière très très chaude. Et cette lumière chaude se vit ici concrètement.
Eric Noulet C'est assez incroyable comme démarche. Hein. Il a tout financé lui-même et je mets ça à disposition pour que les gens se posent cette question, c'est quoi, pourquoi on peint, pourquoi on sculpte, pourquoi... J'ai un ami qui s'appelle Francis Alice, par exemple, donc j'avais vu l'expo au Wills. Ça, j'aime bien la démarche de l'artiste contemporain qui fait autre chose, il fait
et pas des tableaux. Qui est architecte aussi. Voilà.
Si vous allez en France, c'est un pays unique au monde. Toutes les petites villes ont un musée. Hein, Dole, Grès, Besançon, Dijon, qui est une ville moyenne, etc. Et il n'y a personne. Et la présentation, vous voyez les vitrines, s'il y a des vitres, vous voyez la poussière, vous voyez une araignée qui est tombée, vous voyez une mouche morte. Et c'est bien à l'image de ce que c'est l'art. En fait, je dirais, il faut considérer le visiteur non pas comme un privilégié de pouvoir voir des belles choses, mais comme un consommateur qu'on chérit et qu'on suit, à qui on répond à toutes ces questions et toutes ces demandes, si vous voulez.
C'est à côté d'une sculpture de Rodin magnifique, un très très beau vieillard, vraiment splendide ici, autour duquel on peut tourner, les sculptures autour desquelles on peut tourner, c'est quand même merveilleux. Ce qu'on propose aussi dans cette salle pour comprendre le néo-impressionnisme, c'est diverses manières d'impliquer le corps, l'intelligence, le regard, etc. Par exemple, on a ce qu'on appelle une vitrine indiscrète. C'est une vitrine qui propose un regard sur des sculptures devant lesquelles on risque de passer sans y faire attention. Eh bien, cette vitrine, comme elle est indiscrète, c'est-à-dire qu'elle nous oblige à nous pencher pour observer par une sorte de trou de serrure la sculpture, on la regarde enfin. Et le regard s'affûte et on observe, le regard glisse sur les différents, les formes, la matière, les lumières, et on regarde beaucoup mieux. Ça, c'est pour l'aspect implication du corps.
Petite Joost de Gees, des chefs-d'œuvre.
Il y a un Weerts, un peintre flamand, bruxellois, du XVIIe siècle. Je crois que c'est son chef-d'œuvre absolu. Et c'est très rare.
Et puis vous avez bien sûr des très très beaux tableaux avec Émile Claus, vous avez Jenny Montigny, donc des grands post-impressionnistes ou luministes comme Émile Claus. Vous avez l'audioguide qui vous permet d'appréhender ce courant. Le courant est décrit sur les murs en cartel. Mais si ça nous embête de lire et qu'on préfère contempler les œuvres en écoutant ce qui est écrit sur le cartel, eh bien on pousse sur le numéro qui est indiqué et tout de suite on a tout en quatre langues dans l'audioguide.
C'est le nombre d'œuvres de très grande qualité et qui ne sont pas connues. Donc il y a eu une recherche dans un milieu spécialisé de collectionneurs qui ont prêté des chefs-d'œuvre.
C'est possible d'avoir des œuvres de si grande qualité inconnues aujourd'hui?
Parce que les gens ne les montrent pas facilement. Et les grands musées sont bien pourvus. Donc ce n'est pas toujours nécessaire pour un grand musée d'avoir beaucoup de prêts parce qu'ils ont déjà beaucoup d'œuvres sous la main ou qui appartiennent à des musées avec lesquels ils travaillent.
Tout est en quatre langues dès le départ. Donc c'est très facile. En fonction de votre ticket et de votre audioguide, vous avez accès à toutes les activités en quatre langues. Ça, c'est tout de même un grand cadeau.
Vraiment une révélation, cette exposition. De qualité, d'œuvres peu connues mais excellentes. On n'a rien oublié. Dans tous ces mouvements, il n'y a qu'une œuvre par artiste. Enfin, en général, il n'y a qu'une œuvre par artiste. Mais tous ces mouvements avant-gardistes, par exemple, du début du siècle passé, tout y est.
Et alors, pour comprendre le post-impressionnisme, qui est quand même le fruit d'un siècle très scientifique, le 19e siècle, eh bien, on a une proposition fantastique. C'est vrai que Seurat est un artiste à l'origine du post-impressionnisme, du pointillisme. On nous propose ici une activité dans laquelle on voit une reproduction d'un tableau de Seurat, et une activité numérique nous permet de choisir un des personnages du tableau et ensuite se mettre à le colorier avec un stylet à point. Chaque fois qu'on pousse du doigt en choisissant sa tonalité, un point se met à l'écran. Très rapidement, on réalise que point par point, c'est lent, c'est long, et qu'on comprend donc pourquoi beaucoup d'artistes ont touché au pointillisme, même s'ils ne sont pas attardés, ça prenait des mois pour terminer un tableau. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en poussant longtemps avec son doigt, on se retrouve avec, au bout du doigt, un canon à point, plusieurs points à la fois. Et donc on a quand même la satisfaction d'arriver au bout de la création d'une petite œuvre qui est ensuite envoyée à sa propre adresse internet, et donc on récupère le fruit de son travail fastidieux, du travail à point. Et donc on comprend le post-impressionnisme par l'observation des tableaux magnifiques qui nous sont présentés, par l'écoute de l'audioguide et par le travail du point à point qu'on fait sur un écran.
ce silence même. Hein.
Ouais.
Avec, c'est vrai, le jardin de Graminée et le schiste, ouais, c'est une pierre d'ici. Hein.
Oui, 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 tout à fait. On est dans des grès schisteux, nous aussi, mais on est toujours à la frontière. Entre tout ça, c'est des matériaux. La pierre, ça, c'est la pierre du Hainaut, mais bon, c'est nos matériaux usuels dans la région. Quoi. L'acier, c'est contemporain. C'est l'aluminium, c'est pas d'entretien, c'est des aspects pragmatiques comme ça aussi. Hein. Et puis, ça nous a changé un peu le bâtiment qui était avec des anciens châssis bois qu'on ne pouvait pas conserver de toute façon. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a conservées. Hein.
Pensez à Van Rysselberg. Il y en a-t-il?
Van Rysselberg, on ne l'a pas. On n'a pas de Van Rysselberg, non, non. Mais par contre, on est très gâtés. Vous savez, de nouveau, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a goûté au post-impressionnisme, on se dit, dis donc, moi, j'ai bien aimé ce courant-là, dans ces 7 siècles d'art qu'on a traversés. Eh bien, allons plus loin. Allons voir où se trouve la plus grande collection de post-impressionnistes et allons la découvrir. Donc, vraiment, l'idée du musée n'est pas de se dire, il n'y a que celui-là qui compte, mais c'est un musée qui amène à d'autres, qui amène à explorer les mouvements qui nous ont le plus plu, tout simplement.
Au niveau de l'avant-garde, le symbolisme, on voit des choses extraordinaires. Daumier, j'ai jamais vu. 20 ou 30 têtes modelées par Daumier, une sensation en soi. On voit une ou deux pièces à une exposition, mais jamais autant.
Et au stockist.
Et tout ça a redu. Oui, il faudra dire aux amateurs que c'est un lieu à ne pas rater.
Un type de musée comme ça, avec un philanthrope comme on connaît, y en a-t-il en Flandre?
Pas de cette qualité-là. Il y a peut-être des collections, je dirais, plus spécialisées, l'expressionnisme flamand, l'avant-garde, etc. Mais ici, on a tout. On va du XVIIe siècle, même avant, jusque maintenant.
Dans un petit musée, une grosse maison, avec beaucoup de pièces.
Oui, oui, oui. C'est un avantage. D'un autre côté, il ne faut pas faire des kilomètres pour découvrir autant de chefs-d'œuvre. C'est une adresse qu'il ne faut pas rater. Il faut venir ici.
Ici, c'est à retenir. Merci, Joost de Geest. Quand on dit prêteur en ce qui concerne les œuvres présentées...
Il y a beaucoup de prêteurs. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais c'est des prêteurs internationaux qui ont fait confiance à M. Noulet pour confier leurs œuvres, sachant qu'on allait tout mettre en place pour la sécurité et qu'au moins elles seraient mises en valeur et accessibles au public. Parce que beaucoup de collectionneurs ont peur pour leurs œuvres.
Donc ce qu'on a fait, c'est que prendre la même couleur pour essayer de... Donc il y a de l'architecture. Là, c'était un passage, c'était un auvent. Mais on l'a refermé et on a augmenté le salon de thé comme ça. Donc on a pu jouer avec le bâtiment, tout en le respectant. C'était important.
On arrive dans le contemporain. Et ici, c'est sûr que le XXe siècle, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne.
Il fait très froid ici.
C'est un peu plus frais, effectivement.
Vois Cobra, je pense à Christian d'Autremont qui aimait le froid et le nord. C'est un peu le but.
Alors peut-être que c'est une évocation sensorielle de Christian d'Autremont. Enfin, ça, ce serait trop beau. Le naturalisme ardennais qui est quand même représenté ici. Mais regardez, on passe ici par l'art déco, les transatlantiques, les grands paquebots d'Anversois. Regardez aussi ici, vous avez des tas de petits tests qui ne sont pas uniquement des tests pour lesquels il faut utiliser le numérique et son QR code, mais parfois simplement des tests de manipulation physique des objets. On a besoin de toucher. Les enfants, trop souvent, les empêchent de toucher. Ici, on touche, on regarde, on observe et on affûte le regard. Par exemple, ici, un petit choix. Tiens, qu'est-ce que vous pensez? C'est une œuvre Art Nouveau ou Art Déco?
Marie-Elisabeth Van Rijkevorsel.
Dans l'audioguide, ce qui est intéressant, c'est que l'audioguide est fait sous forme d'un dialogue entre une petite fille, la mascotte du Moudia, Mademoiselle Moudia, et une guide. Et la petite fille, elle pose toutes les questions qui fâchent. Hein. Genre, devant ce tableau-là, elle va dire pourquoi il y a que des taches, enfin, je ne reconnais rien, ça ne représente rien. Et en plus, quand même, quand je regarde ce tableau, j'ai l'impression que je respire un peu mieux. Et alors la guide, avec des mots simples, tente d'expliquer. Ce qui parfois... Enfin, il n'y a aucune question taboue, quoi. C'est ça, on peut tout poser comme question.
Et enfin, sachez que nous avons, ma femme et moi, été intéressés
Éric Noulet
par l'évolution de l'art, et non par une période bien déterminée. C'est pour ça que nous avons visité tant de musées, nous avons voulu avoir peu de choses banales présentées, d'accord ? Et nous avons voulu en faire une véritable attraction touristique, puisque lorsque nous demandions aux gens « Avez-vous visité un musée ?»« Oui, oui, le Louvre, les grands musées, les grandes expositions, mais c'était toujours les mêmes personnes.
Nous sommes dans les années 50 ici.
Oui, c'est ça, on traverse le mouvement Cobra, le magnifique Alechinsky ici, Reynaud qui est magnifique aussi. Donc on traverse ce moment de simplicité dans l'art, une forme de primitivisme. Et puis, bien sûr, Andy Warhol, la société de consommation, Panamarenko, avec ses objets hétéroclites, étranges, récup, fascinants. Et l'hyperréalisme aussi, une Marilyn dont les jupes volent à plaisir. D'ailleurs, quand vous passez devant, vous verrez les jupes qui s'envolent.
Et nous avons voulu, en fait, faire en sorte que l'art rentre dans les foyers où on ne visite jamais l'art. Et ça, c'était notre objectif. Et je crois que grâce à toute l'équipe, eh bien, on l'a atteint, cet objectif.
Vous avez cette magnifique sculpture de Paul Burif. Ici, on l'observe quelque temps, se met à légèrement bouger. D'ailleurs, l'audioguide permet de le réaliser. Le rythme lent, hein, on a besoin de retrouver une forme lente d'observation, la sensation du temps qui passe, les grands espaces intérieurs de Safran. Et puis, on arrive petit à petit aux derniers arts, aux derniers nés des arts, c'est-à-dire le film, la Patati, la BD. On a des belles planches de BD originales, on a Philippe Geluck, des films qui nous racontent Philippe Geluck, et puis la photographie magnifique là. Et surtout, on termine le parcours, en fin de parcours, on se retrouve avec un film. Alors ça, de nouveau, un connectique est formidable, parce que quand on scanne son QR code à l'entrée du film, si la majorité des QR codes scannés sont en néerlandais, eh bien le film sera diffusé en néerlandais, etc. Avec des sous-titres en allemand, en anglais, en fonction des QR codes scannés. Et ce film nous propose, en 10-12 minutes, un parcours du fleuve des arts. Vous l'avez vu, le film, déjà ?
Puisque... En fait, on a dû refuser les conservateurs des tout grands musées de Washington, de Paris, de Londres. Tout le monde se dit, ça sera le genre de musée tel qu'il sera développé dans les années futures.
Eh bien, 10-12 minutes, un parcours du fleuve des arts tout à fait passionnant, qui fait comme une espèce de récapitulatif de ce qu'on vient de traverser. On s'assied, on se repose et on profite. Et puis la visite se termine sur le Moudia Café, ici au-dessus, où, ça je tiens à vous dire, M. Noulec est un gourmet, vous a choisi une liste de je ne sais pas combien de bières extraordinaires de la région, un œnologue chevronné, Stéphane Dardenne, nous a vraiment choisi des vins, enfin c'est amusant, enfin, on goûte le vin en lisant les textes avant même de l'avoir en bouche. Donc on est là dans une épicerie fine intéressante aussi. C'est aussi un concept qu'on est bien partout au Moudia, et dans le Moudia Café, vous avez aussi des murs tapissés de livres d'art, avec aussi un endroit BD, salon pour les enfants, tapissé de livres d'art, mais des livres d'art aussi qui sont des catalogues de vente. Et donc on aborde aussi la notion de la valeur. Combien ça vaut, quoi. En fait, combien ça vaut tout ça? Je pense que c'est important de ne pas esquiver cette question-là aussi. Elle n'est pas taboue et on peut l'aborder par un jeu qui s'appelle un bandit manchot qui vous montre les œuvres d'art les plus chères au monde en haut, et puis par le biais des catalogues d'œuvres qui seront dans le Moudia Café. Allez voir le film.
Profitez-en. Magritte.
Magritte, oui, il est à l'étage du surréalisme au deuxième étage.
C'est l'étage.
Je prends l'ascenseur, s'il vous plaît.
Province du Luxembourg, Redu, village du livre, Moudia, l'art autrement. Du mercredi au dimanche, de 10 à 18 heures.
Rideau fermé, vous avez peut-être remarqué non seulement que le rideau est fermé et se referme tout seul dès l'ouverture, et aussi qu'il est placé un peu en hauteur. Nous avons là, comme à plusieurs endroits du musée, des reproductions de tableaux. Les reproductions de tableaux sont bien distinguées des tableaux originaux qui sont derrière des vitrines. Les reproductions de tableaux, ici en particulier, vous avez une reproduction d'un tableau célébrissime qui s'appelle « L'origine du monde » de Gustave Courbet, « Le concret des choses », disons, qui nous dit aussi que l'art, c'est en partie fait pour le grand public, mais parfois on peut aussi savourer l'art pour soi tout seul. Et il y a ce collectionneur qui a voulu avoir « L'origine du monde » dans sa salle de bain, caché derrière un autre tableau, etc. Le côté secret, le côté « rien que pour moi, j'aimerais bien savourer cette œuvre pour moi », on a voulu aussi le dire à travers la présence de cette œuvre un peu coquine sur nos murs, mais difficilement accessible aux enfants, donc tout va bien.
Et qui n'est pas loin de la question où nous sommes, puisque je reviens à Fernand Knopf, qui est au milieu de deux Félicien Rops, où la question de la femme est évidemment posée, comme l'origine du monde étant détenue par un certain Jacques Lacan, psychanalyste aussi de la question de l'inconscient.
Alors le 19e siècle est quand même un siècle particulier. C'est un siècle où les femmes sont vêtues de pied en cap, serrées dans des corsets. On ne laisse voir que leurs mains et leur visage, et encore on met des gants et le visage doit pudiquement être détourné. La femme étouffe, et en général la société entière étouffe. On est dans des codes moraux rigides, absurdes, étranglant tout le monde. Alors certains s'y plient en apparence, et puis derrière font beaucoup de bêtises. Et c'est sûr que de temps en temps, ça éclate. Et des artistes comme Hobbes vont faire éclater les choses de manière un peu iconoclaste, dérangeante, sexuelle. Pourquoi ? Parce que quand on met le couvercle trop longtemps sur une casserole à pression, ça explose. Et le 19e, c'était une casserole à pression. Et ça a explosé avec Hobbes d'abord, mais aussi avec des tas d'artistes. Et c'est pas étonnant qu'on aboutisse quand même à quelque chose de très révolutionnaire au XXe siècle, où tout l'art va être bousculé.
Avec Marie-Elisabeth van Rijckewortel, Éric Noulet, Anne Laffy, Geneviève Bijal, Joost de Geest. L'art autrement à redire. Par Thierry Junico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.